Les temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison des temps électriques. L'actualité numérique et juridique de l'été fut dense, mais avant tout, on reste encore fortement bercé par l'esprit des Jeux Olympiques qui se sont poursuivis il y a quelques jours avec les Jeux Paralympiques. À cette occasion, on va parler dépassement de soi, dépassement du corps dans cette émission sur le thème du sport et du transhumanisme. Pour cela, j'ai le plaisir de recevoir en studio Claire Laborde-Mingeot. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne du droit, doctorante au Centre d'Histoire et d'Anthropologie du droit de l'Université Paris-Nanterre. Et avec vous, on entendra à distance deux invités. Marc Pelletier, bonjour.
Bonjour Sophie.
Vous êtes maître de conférence en droit privé à l'Université Côte d'Azur, membre du board de l'unité d'intégrité de l'athlétisme. Vous étiez venu l'an dernier pour une première émission sur les JO. Merci du coup d'avoir accepté cette nouvelle invitation. Et avec vous, Yannick Rumpala, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes également maître de conférence, HDR, à l'Université Côte d'Azur aussi, mais en sciences politiques. Trois invités, aux casquettes différentes donc, pour échanger sur un thème aux enjeux particulièrement d'actualité. JO, sport et transhumanisme, chers auditeurs, bienvenue dans cette nouvelle émission des temps électriques.
Mon surnom, c'est Rising Phoenix, parce que le phénix vit, meurt et renaît de ses cendres.
La tension est à son comble.
À vos marques.
Ouais, on a vécu quelque chose qui nous a pas permis de pouvoir réussir.
C'est comme ça. Joyeux Noël.
Pourquoi moi? Mais si on se pose cette question tous les jours, on n'avance pas.
Quand j'ai vu comment le sport était accepté, c'était logique de démarrer un mouvement.
On voulait que les gens voient autrement les personnes en situation de handicap.
La clé, c'est le sport. Il n'y a rien au monde de mieux pour vous tirer de l'abîme que le sport.
Au moment même où je me suis assise dans ce fauteuil de course, j'ai su que c'était pour moi.
L'esprit paralympique, mis à l'honneur dans le documentaire Comme des phénix, dont vous venez d'entendre la bande-annonce, a permis de changer notre façon d'aborder le handicap, la diversité, mais aussi l'excellence. Plus vite, plus haut, plus fort, telle est la devise des Jeux Olympiques. Étroitement lié à l'idée de dépassement de soi, il a fallu attendre un demi-siècle, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, pour que les Jeux s'ouvrent à d'autres participants, présentant alors une forme de handicap. Juillet 1948, le médecin Ludwig Gutmann organise une rencontre sportive particulière. Des vétérans en fauteuil roulant s'affrontent lors d'une épreuve de tir à l'arc. L'événement marquera la naissance de ce qui deviendra Jeux paralympiques dès 1960 à Rome. Fauteuil roulant, prothèse aérodynamique, lame de sport en carbone, autant d'équipements de plus en plus légers et résistants qui sont progressivement venus accompagner les sportifs dans ces Jeux. Alors qu'ils étaient initialement utilisés pour réparer le corps de l'homme, ces appareillages semblent désormais pouvoir aller au-delà, en augmentant les capacités de leurs utilisateurs. Mais alors, une question se dessine progressivement. Pourquoi ne pas en équiper des personnes valides pour en obtenir plus ? On glisse ici vers une idée autre, celle du transhumanisme. Le transhumanisme est un mouvement social récent qui prône l'usage des sciences et des techniques afin de développer les capacités humaines, de dépasser les limitations de l'homme. S'y dessine en fait toute une approche interdisciplinaire dont l'échange avec nos invités sera la parfaite illustration, mêlant philosophie, histoire, sciences politiques et même droit. Comme si l'homme ne se suffisait plus à lui-même, on voit apparaître de nouveaux termes. Homme instrumenté, homme connecté, homme amélioré, homme hybridé. Pour reprendre l'image du professeur de philosophie Jean-Michel Beignet, le sport serait-il le cheval de Troie du transhumanisme ? Le sport a toujours été associé à l'idée du dépassement des limites du sportif. Pour atteindre cet objectif, certains sportifs se sont tournés vers le dopage, on en parlera, dont l'encadrement est déjà un défi. Alors à l'heure du numérique, de nouvelles perspectives d'augmentation du corps se dessinent. Quel encadrement leur donner? On en parle dans un instant avec nos invités.
I'm living in an age whose name I don't know, though the
My Body is a Cage, ce morceau du groupe Arcade Fire, nous livre l'image d'un corps entravé, mais d'un esprit dépassant les contraintes. Voici une belle ouverture à la discussion que l'on va mener avec nos invités. On parlera dans cette émission de diverses façons d'optimiser le corps, de le réparer aussi. Et la première image qui vient souvent à l'esprit en ce sens, c'est celle des prothèses. Alors depuis les premiers Jeux paralympiques à Rome, je l'ai évoqué, 1960, les athlètes cherchent à optimiser leur équipement, leur appareillage pour améliorer leur performance. On peut donc débuter cet échange avec un peu d'histoire avec vous, Claire Laborde-Mingeot. Je rappelle donc que vous êtes historienne en droit. À partir de quand l'homme a-t-il commencé à utiliser des prothèses ou autres appareils pour améliorer sa condition physique ?
Eh bien, très très tôt, en fait, dès l'Antiquité, on trouve des traces d'appareillage pour combler un manque d'un membre ou une partie d'un membre qui aurait été sectionné. Et la plus vieille prothèse qu'on ait trouvée, c'est un gros orteil sur une momie du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Donc ça remonte un peu. Et dans l'Antiquité, on a surtout deux types de prothèses. Les prothèses esthétiques, donc par exemple les dents en or, ou la chevelure, il y a énormément de perruques. Mais on a aussi un assez gros développement de prothèses médicales. L'archéologie a montré beaucoup de jambes en ivoire, par exemple. Les prothèses, pendant l'Antiquité, ça n'a pas le même terme que maintenant. On n'a pas un terme de prothèse pour tous les membres ajoutés. On précise généralement le membre manquant et le matériau qui permet de combler ce manque. Par exemple, une main en fer, une jambe en bois, une dent en or, etc., etc. Et il faut comprendre que la prothèse, même si ça existe et c'est une réalité sociale, c'est pas mis dans les traités de médecine, c'est pas quelque chose de noble, c'est pas une amputation ou un remède plus naturel, c'est vraiment mécanique. Donc les personnes qui ont un membre manquant doivent généralement se tourner eux-mêmes vers les artisans sans être dirigées par un médecin.
D'accord. Et alors, donc là, l'aspect réparation, réparation avant l'esthétisme, même si vous l'évoquez un peu quand même. Et alors, par rapport au sport, à partir de quand, est-ce qu'on sait d'ailleurs, à partir de quand on a commencé à utiliser certains outils, lesquels à ce moment-là, pour la tenue de jeux sportifs ?
Alors, comme vous l'avez dit dans l'introduction, les premiers jeux n'étaient pas... dédié aux prothèses, en fait. Le handisport a vraiment été créé avec le sport des sourds à la fin du 19e siècle, avec l'ancêtre de ce qui est actuellement les Deaflympics, où ils ont vraiment des catégories, une compétition spéciale. Et ensuite, on a eu en 1948, donc l'ancêtre de nos paralympiques actuels, avec les Jeux de Stockmanville en 1948. Mais ça, c'était pour les vétérans qui étaient atteints de paralysie. Donc, c'était des gens en fauteuil roulant, il n'y avait pas de prothèses. Et suite à la création de l'International Sports Organization for the Disabled en 1964, il y a vraiment eu une sorte de militantisme, de lobbying pour l'intégration au sport de personnes qui n'étaient pas concernées par le fauteuil roulant, notamment les personnes amputées et avec des prothèses. Et on a eu les premières personnes amputées qui ont participé aux Jeux paralympiques de Toronto en 1976. Et à partir des années 80, on a vraiment le développement de prothèses de compétition tournées vers la performance.
Oui, d'accord. Donc une prothèse qui est pensée pour aider le corps, effectivement, pour une sorte de supplémentation mécanique un peu dans cette guérison. Alors malgré tout, même si là on comprend qu'on est quand même dans une époque pas contemporaine, mais quand même pas si lointaine finalement. Vous êtes historienne du droit, donc évidemment je m'adresse à vous pour parler un peu des jeux durant l'Antiquité. On a quand même des prémices d'un encadrement des méthodes de dépassement de soi ou pas du tout dans l'Antiquité ?
Oui, alors dès les Jeux Olympiques antiques... On envisage la triche, qui est quelque chose d'inhérent à chaque compétition.
Inhérent à l'homme, peut-être.
Oui. Et en fait, on peut voir dans les traités de médecine ou dans les traités, ou dans les récits d'historiens, les habitudes des athlètes. Et en fait, on voyait par exemple que les athlètes avaient un régime complètement différent des autres Grecs. Par exemple, on mangeait énormément de viande, ce qui est assez drôle parce qu'en fait, ils s'adaptaient la viande qu'ils mangeaient au sport qu'ils allaient pratiquer. Mmh. Donc... voilà, ce qui pouvait être critiqué par certains médecins. Et il y a aussi la prise d'antidouleurs ou de certaines substances pour ne plus ressentir la fatigue, ce qui a été très critiqué. Et pour éviter cela, les règles des Jeux Olympiques antiques font qu'on doit arriver un mois avant au village olympique, qui était Élis, pour s'entraîner pendant un mois dans le gymnasium, ce qui fait qu'en fait on peut surveiller ce que les personnes mangent, qu'il y ait une sorte d'harmonisation de ce que les personnes prennent. la triche était envisagée et punie. Quand on triche, on a une amende. On a le nom qui est noté sur une statue de Zeus, ce qui fait qu'on a une infamie publique, et on est interdit de concourir à l'avenir. La plupart des cas de triche qu'on a, c'est surtout des cas de pot de vin, en fait. Acheter les juges ou acheter les autres athlètes pour qu'ils perdent délibérément. Mais on sait qu'il y avait des formes de dopage et qui étaient condamnées, du coup.
C'est intéressant, je pense que Marc Pelletier, à distance, ça vous fera certainement réagir tout à l'heure. Alors, on fait justement un bond dans le temps, Marc Pelletier, avant de parler de la question du dopage, dont on parlera et qui vous intéressera certainement. Première question, sur la réglementation à l'époque actuelle, dans le cadre des Jeux paralympiques, sur les critères tenant aux prothèses ou aux autres appareils qui peuvent être utilisés, avec lesquels les athlètes sont admis à concourir.
Alors, je vais essayer de répondre rapidement à votre question. La difficulté, hein, comme on est tous devenus experts de Jeux paralympiques, c'est qu'il y a évidemment toutes sortes de handicaps qui sont reconnus. Alors, je vais essayer de me concentrer sur l'usage des prothèses et la réglementation qui existe. Alors, c'est une réglementation qui est élaborée, en tout cas pour les Jeux paralympiques, par le Comité international paralympique, qui, pour résumer, se fonde sur quatre principes fondamentaux. Le premier principe, c'est celui de la sécurité. Donc, il faut que la prothèse garantisse la sécurité déjà de la personne qui l'utilise, bien évidemment. Mais il faut aussi que cette prothèse soit sûre pour les autres personnes, les concurrents, les arbitres, les spectateurs. Il faut aussi s'assurer que la prothèse n'abîmera pas le terrain de jeu. Hein. Donc, par exemple, en athlétisme, la belle piste violette du Stade de France pendant les Jeux paralympiques. Donc, quatre principes fondamentaux. D'abord, il y a la sécurité. Ensuite, c'est l'équité et l'universalité. On essaie de s'assurer que cette prothèse, elle est disponible, c'est-à-dire qu'elle est soit sur le marché, soit sur le point d'être sur le marché, et qu'elle n'ait pas un coût trop élevé. C'est-à-dire qu'il faudrait que cette prothèse puisse être utilisée, ou ce modèle de prothèse puisse être utilisé par différents athlètes et pas seulement par un seul athlète. Donc sécurité, équité, universalité et un quatrième critère qui est celui de la prouesse physique. En fait, il faut que la performance sportive reste une performance liée à l'athlète lui-même ou à l'athlète elle-même, à ses capacités physiques. Et bien évidemment, ça exclut toutes les prothèses qui permettraient de stocker de l'énergie et de l'utiliser, par exemple, évidemment, tout ce qui permettrait d'utiliser un moteur. Donc voilà les quatre critères. Alors en amont de la compétition, c'est habituel, hein, les sportifs doivent s'enregistrer pour être accrédités. Pour les sportifs paralympiques, il y a cette petite particularité qu'au moment de l'accréditation, ils doivent aussi enregistrer le modèle qu'ils utilisent, l'équipement qu'ils utilisent. Là, on parle de prothèses. Donc, il faut qu'ils soient capables de donner le nom du fabricant, le produit et même une description technique. Ils peuvent joindre des fichiers PDF, hein, notamment pour s'assurer que ces quatre principes fondamentaux sont bien satisfaits.
D'accord. Alors, effectivement, on a là une volonté, comme vous le soulignez, avec ces critères que vous reprenez, d'être dans l'aide au corps, mais on sent qu'on a de plus en plus quand même la possibilité et la volonté d'aller vers une augmentation de ce corps. Et donc, les exemples que vous prenez sont pour encadrer ces usages pour des personnes invalides. Maintenant, la question s'est posée avec certains athlètes qui ont voulu équipés de prothèses, concourir par exemple dans des catégories avec des valides. La question n'est pas nouvelle, hein. On a en tête des noms d'athlètes qui ont fait cette demande de concourir avec des valides. Donc, parmi les noms qu'on connaît, Oscar Pistorius ou plus récemment Hunter Woodwall. Alors peut-être que vous pourriez reprendre certaines de ces affaires, de ces demandes pour mettre en évidence là, à ce niveau-là les difficultés que ça pose quand on a ce type de demande.
Oui, alors je vais peut-être rester sur des exemples de para-athlètes, donc de sportifs qui font du para-athlétisme et qui sont équipés alors soit d'une, soit de deux prothèses, notamment pour les membres inférieurs. Je vais peut-être être un peu cynique, mais le premier élément de réponse, c'est que bien sûr, il y a cette idée de vouloir ouvrir des compétitions normalement ouvertes aux sportifs valides, les ouvrir aussi aux para-athlètes. Par exemple, vous l'avez rappelé, Yannick Rumpala et moi, aujourd'hui, on est à Nice. Et à Nice, vous avez un meeting d'athlétisme dont certaines épreuves sont, entre guillemets, open. C'est-à-dire que vous avez à la fois des athlètes dits valides et des athlètes qui doivent utiliser une prothèse. Donc, je dirais, pour être cynique, que tant qu'il y a une différence de niveau, ça ne pose pas de problème. Mais effectivement, les affaires dont vous venez de parler, c'est des affaires où on a des para-athlètes qui atteignent un niveau qui est proche de celui des athlètes valides. Pour vous donner un exemple, au dernier Jeux paralympiques, le champion paralympique de saut en longueur, c'est un Allemand, Markus Rehm, qui est amputé en dessous du genou droit, donc il utilise une prothèse du côté droit. Il a gagné les Jeux paralympiques avec un saut de 8,13 m. Il aurait fini sixième aux Jeux Olympiques. Donc, ça veut dire que ses performances sont au moins aussi bonnes, voire parfois meilleures que celles de sportifs valides. D'ailleurs, son record, qui est le record du monde paralympique, c'est 30 cm de plus que le record de France de saut en longueur des sportifs valides. Alors, Oscar Pistorius, c'est peut-être effectivement le plus connu, vous l'avez cité tout à l'heure. Plus connu pour de multiples raisons, mais on va rester sur le
côté l'aspect sportif.
Oui. Il a été champion paralympique aux Jeux d'Athènes en 2004. Il courait le 400 mètres. Et puis, donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, ses performances se rapprochaient de plus en plus des performances des athlètes dits valides. Et il a souhaité participer à des compétitions, aux compétitions de la Fédération internationale d'athlétisme. Ça a posé quelques problèmes parce qu'on a commencé à s'interroger sur le fait que ça ne pourrait pas lui apporter un avantage d'utiliser ses prothèses. Et donc, la Fédération internationale d'athlétisme avait adopté un premier règlement qui interdisait l'usage de prothèses si ça apportait un avantage compétitif pour l'athlète. Et donc, Oscar Pistorius s'était livré à toute une série de tests et une université allemande avait considéré que ses prothèses lui donnaient un avantage particulier, notamment parce qu'il utilisait moins d'énergie que les athlètes dits valides. Et donc, sur 400 mètres, ça pouvait être quelque chose d'intéressant pour lui. Donc, il avait contesté son exclusion des compétitions. C'était allé devant le tribunal arbitral du sport qui avait donné raison à l'athlète, à Oscar Pistorius, en considérant notamment que ce fameux test réalisé par l'université allemande était un peu biaisé, parce que le test avait été réalisé sur des lignes droites. Or, le 400 mètres, ce n'est pas totalement droit, il y a quelques virages, au moins deux. Et puis, ça prenait pas en compte non plus la phase de départ, où là, la prothèse peut être un handicap. Donc du coup, le tribunal arbitral du sport avait donné raison à Oscar Pistorius et finalement, il avait pu participer à des compétitions avec des valides. Donc il a notamment une médaille d'argent au championnat du monde d'athlétisme 2011, valide. Il a participé aux Jeux de Londres aussi. Et donc la Fédération internationale d'athlétisme a ensuite essayé de modifier son règlement, de le rendre de plus en plus contraignant. Et il y a eu d'autres affaires. Alors, plus récemment, on a l'affaire Blake Leeper, qui est un coureur américain, lui aussi un para-athlète, qui a deux prothèses, donc amputé des deux jambes, en dessous des deux genoux, je crois. Blake Leeper, lui, souhaitait participer aux Jeux Olympiques de Tokyo. Il avait d'ailleurs réalisé les minima olympiques, mais sa candidature aux Jeux de Tokyo n'a pas pu être retenue parce que le nouveau règlement de la Fédération internationale de l'athlétisme prévoit que lorsque vous avez deux prothèses, il ne faut pas que ces prothèses augmentent votre taille, c'est-à-dire qu'on va calculer la taille hypothétique que vous auriez atteinte si vous aviez eu vos deux jambes complètes. Et si les prothèses vous donnent un avantage en vous grandissant artificiellement, on considère que vous avez un avantage compétitif qui vous interdit de concourir avec les valides. Donc, c'est ce qui est arrivé à Blake Leeper. On avait considéré que sa taille devait être 1m74. Avec les prothèses, il faisait plus de 10 cm de plus. Alors, lui, il a contesté aussi cette exclusion devant le tribunal arbitral du sport. Il n'a pas obtenu gain de cause. Et il est allé ensuite devant le tribunal fédéral suisse, qui est la juridiction de recours contre les sentences du TAS, et il n'a pas obtenu gain de cause non plus. Et d'ailleurs, il a arrêté sa carrière, non seulement avec les valides, puisque c'était la décision, mais aussi en para-athlétisme. Et pour terminer, puisque j'avais commencé par lui, le fameux Markus Rehm, hein, qui ce sauteur en longueur allemand, lui aussi, son handicap, malheureusement, il ne peut pas concourir avec les valides par rapport au règlement de la Fédération internationale d'athlétisme. Lui n'a qu'une seule prothèse, si vous me permettez cet élément de phrase. Il n'a qu'une seule prothèse, mais son pied d'appel, c'est justement la prothèse. Or, d'après les règlements de la Fédération internationale d'athlétisme, si votre pied d'appel, c'est celui de la prothèse, c'est considéré comme un avantage compétitif qui est beaucoup trop important. Donc voilà, en gros, les affaires qui ont été soumises d'abord aux fédérations internationales, puis après, sur recours, au tribunal arbitral du sport et éventuellement au tribunal fédéral suisse.
On voit quand même qu'il y a une discussion quand même à mener selon les situations, selon effectivement la situation physique, la situation liée au sport. Et puis aussi, finalement, si on réfléchit en termes d'avantages concurrentiels que ça peut donner aux athlètes, la question, là, elle glisse vers l'autre thématique que je vous adressais, qui est celle du dopage. Est-ce qu'on considère que à partir du moment où ça offrirait un avantage concurrentiel aux athlètes, avec ces discussions valides, invalides, on serait face à une nouvelle forme de dopage ?
Alors c'est vrai que dans le langage courant, le dopage est souvent associé à toute forme de triche dans le sport, ou en tout cas à beaucoup de formes de triche dans le sport. Si on reste sur l'athlétisme, il y a beaucoup de débats sur l'usage de certaines semelles, de certains équipements, et on parle de dopage technologique. Même chose avec dans le cyclisme, où les vélos qui sont utilisés sont analysés pour vérifier qu'il n'y a pas un moteur, etc. Donc on parle de dopage technologique dans le langage courant, dans la presse. Mais en réalité, le dopage, si on le regarde avec un œil de juriste, il est défini par le Code mondial antidopage. Il est défini par référence à 11 violations, 11 infractions, la plus connue étant la présence d'une substance interdite ou le contrôle positif. Et tout ce qui est usage de technologies, d'équipements, ça ne rentre pas dans la définition du dopage. Lorsque se pose la question d'utiliser ce type d'équipement, ça ne relève pas de l'Agence mondiale antidopage ou des organisations nationales antidopage. En revanche, il y a peut-être un lien qui peut être fait et qui permet de rentrer dans le thème général de l'émission. Donc, vous avez rappelé tout à l'heure que vous m'aviez invité pour parler de l'usage des réseaux sociaux pendant les Jeux Olympiques. On avait évoqué une loi de 2023.
Oui.
Notamment sur la surveillance algorithmique. Cette même loi de 2023, elle contient des dispositions sur le dopage génétique, puisque le dopage génétique est interdit. Mais pour pouvoir détecter le dopage génétique, encore faut-il faire des contrôles, et ça supposait de modifier le droit français, et notamment le Code civil, l'article 16-10 du Code civil, permettre de faire ce type de contrôle. Donc, on est peut-être un peu aussi dans le thème. Est-ce qu'on ne peut pas envisager que certains sportifs, intentionnellement, essayent de modifier leur patrimoine génétique ? Donc là, on n'est plus dans l'usage d'équipements, mais plutôt de cellules, enfin la modification des cellules. Et dans ce cas-là, effectivement, on rentrerait dans le cadre du dopage, même si se pose la question de la technique. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de le détecter, ce dopage ? Pour le moment, on n'en est pas à ce point-là. C'est interdit, mais je ne suis pas sûr qu'on soit capable de le détecter.
C'est un éclairage intéressant. On y reviendra. Du coup, Yannick Rumpala, je m'adresse à vous en complément, parce que vous êtes, donc je le rappelle, pour le spécialiste en sciences politiques, et vous avez travaillé sur la question du transhumanisme. Alors, peut-être déjà pour débuter, je vous laisse réexpliquer mieux que je ne l'ai fait en introduction ce dont il s'agit, et en complément, après, nous dire à votre sens où se situe la frontière entre le dopage et ce qu'on appelle le transhumanisme. Est-ce qu'il y a une frontière, peut-être ? Alors, réexpliquer peut-être dans un premier temps mieux que je l'ai fait tout à l'heure, plus précisément ce dont on parle.
Alors, c'est là où on fait le lien, en effet, hein, c'est avec la question d'augmentation, puisque le transhumanisme, qui est en fait un assemblage, hein, on pourrait même dire qu'il n'y a pas un transhumanisme, mais des transhumanismes, on y reviendra peut-être après. Assemblage, parce qu'en effet, le transhumanisme, hein, c'est à la fois un projet philosophique, c'est un projet politique, c'est même aussi des imaginaires. J'ai beaucoup travaillé sur les imaginaires, notamment de science-fiction, Et le transhumanisme est abondamment nourri d'images qui viennent de la science-fiction, sur le cyborg, etc. Et avec effectivement cette ambition d'augmentation, c'est-à-dire de sortir de l'état de nature, sortir de la condition naturelle, et de passer vers une autre condition en profitant des aspects techniques. Alors, ça peut être une augmentation physique, mais pas forcément, hein. Ça peut être aussi une augmentation cognitive, hein, et y compris en s'insérant des puces dans le cerveau, comme le fait Elon Musk, ou en recourant à des produits dopants également, pour améliorer les capacités intellectuelles. Donc projet politique, projet philosophique, beaucoup d'imaginaire également. On pourrait résumer l'ambition transhumanisme avec une phrase qu'on trouve fréquemment dans le milieu anglophone, c'est « from chance to choice », c'est-à-dire passer de notre condition naturelle, qui est imposée par effectivement la loterie génétique, et en recourant à tous les ventes des techniques disponibles, passer au choix, quoi. C'est-à-dire que si on veut augmenter ses capacités physiques, ben recourir aux techniques disponibles pour augmenter ses capacités physiques, ou pour pallier certaines défaillances intellectuelles, recourir à des formes de dopage. Donc ça peut stimuler son esprit pour des concours, des épreuves ou des situations professionnelles, par exemple, voilà, en recourant à ce qui est disponible. Alors les transhumanistes vont quand même au-delà, hein, puisque je disais que c'est un projet politique, dont on pourrait refaire l'histoire, hein, d'ailleurs. Je vais même revenir en deux minutes sur le terme et ses origines. On trouve des occurrences de ce terme dans les années 30, et d'ailleurs plutôt du côté français au départ. Alors à l'époque, le terme ne va pas beaucoup circuler, et en fait c'est surtout après la Deuxième Guerre mondiale, avec quelqu'un qui s'appelle Julian Huxley, qui est le frère, c'est le côté amusant et presque paradoxal de la chose, c'est que c'est en fait le frère d'Aldous Huxley, hein, dont on connaît tous le meilleur des mondes, avec pour le coup une forme d'incarnation romanesque de cette vision. Alors, pas tout à fait transhumanisme, puisqu'on est plutôt du côté de l'eugénisme. Donc, Julian Huxley, le frère d'Aldous, était biologiste, mais intéressé d'une certaine manière par les idées eugénistes. Sauf que, effectivement, est intervenu un certain projet nazi pendant la Seconde Guerre mondiale, et du coup, après la Seconde Guerre mondiale, défendre des idées eugénistes était quand même devenu beaucoup plus difficile, surtout avec ce terme. Donc, Huxley, Julian, va remettre cette idée en circulation, pas seulement du côté eugénisme, mais avec cet aspect-là, et donc en essayant de trouver un autre terme pour défendre le même type d'idée, mais différemment, et ce terme, ça va être celui de transhumanisme. Alors, avec d'autres connotations, mais je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça me mènerait peut-être un peu trop loin, mais d'autres connotations qui ne sont pas tout à fait celles, hein, qui sont intervenues ensuite dans ce que le terme va être repris. Alors, malgré tout, ce terme va rester un petit peu en suspens, et c'est surtout dans les années 60-70, qu'on va le revoir revenir, notamment avec une personnalité d'origine iranienne qui s'appelle FM 2030, qui est en fait un nom qu'il s'est donné, hein, pour le côté futuriste, qui va remettre en circulation ce terme, qui va être repris au fur et à mesure jusqu'aux années 80. Et c'est là vraiment où ça va décoller, dans les années 80 et 90, avec un certain nombre de personnalités. Et puis surtout aussi, alors on y reviendra peut-être ensuite, avec des financements. Voilà, y a un aspect qui est important dans cette affaire, c'est effectivement les financements que ces personnalités vont agréger. Donc on pense à des gens comme Natasha Vitas-Moore, son mari Max Moore, qui vont reconnecter tout ça, mais avec d'autres aspects, hein, l'aspect d'immortalité, qui est très fort dans la communauté transhumaniste. Hein. Leur ambition, c'est non seulement de dépasser la condition humaine, mais de la dépasser aussi en termes temporels, hein, et voire en accédant à une forme d'immortalité. Donc ce sont ces gens-là qui vont remettre tout ça en circulation, donc en brassant un tas de trucs, hein, qui peuvent être aussi la cryogénie, pour mettre les organismes en stase en quelque sorte, et les récupérer ensuite. Donc, ce que je disais auparavant, hein, passer de la fatalité, la fatalité de la loterie génétique, et grâce aux techniques disponibles, et en plus évolutives au fil du temps, hein, pouvoir faire le choix de la situation personnelle vers laquelle on souhaite passer. Tout à l'heure, je parlais de financement. Quand je dis financement, c'est qu'effectivement, ces idées vont diffuser jusque dans des universités prestigieuses. On peut penser à des gens comme Nick Bostrom, le philosophe d'origine suédoise, mais qui a poursuivi sa carrière à Oxford. Donc, il a monté un institut à Oxford, hein, qui s'appelle l'Institut pour le futur de l'humanité, qui, pour le coup, réussit la prouesse de collecter des financements assez notables. Et c'est un milieu qui est effectivement nourri par des financements assez divers qui entretiennent les idées. Voilà. Je ne voudrais pas être trop long.
Alors, effectivement, je vais rebondir sur ce que vous avez, sur ce que vous avez dit avant qu'on fasse le lien avec la question dont on parlait précédemment, du dopage et finalement dans le milieu sportif, des conséquences que ce projet un peu transhumaniste pourrait éventuellement avoir. Je voudrais faire le lien en vous donnant la parole à Claire Laborde-Mingeot, qui est donc avec moi en studio, pour rebondir sur l'idée du dépassement du point de vue temporel, la question de l'immortalité que vous évoquiez, parce que les mutilations artificielles, finalement, éloignent l'homme de sa condition biologique, c'est ce que vous avez souligné. Et si on se rapproche de la conception et du rapport au corps durant l'Antiquité, qu'est-ce que ça donne, Claire ? C'est ce que ça questionne, finalement, on avait un rapport au corps particulier.
Oui, alors les anciens n'auraient... ne tendaient pas vers le transhumanisme. Il y a vraiment une idée de la perfection du corps lors de la naissance, donc... On avait l'idée que l'enveloppe corporelle reflétait la nature intérieure et l'âme. Donc, idéalement, on était une bonne personne si on était beau, sans défaut et sans aucun problème physique. Ça se voyait dans le rejet, notamment à la naissance. Au début des temps romains, par exemple, les enfants mal formés, il y a une loi qui prévoit qu'on les expose et qu'on les abandonne, en fait, et on les laisse mourir de faim. Évidemment, c'est quelque chose qui doit être amendé, c'était pas forcément appliqué, ça dépendait globalement du groupe social auquel on appartenait. Mais l'idée de modifier son corps, c'est pas quelque chose qu'on aurait retrouvé chez les anciens, même si on a eu des cas de dopage pour les Jeux Olympiques, c'était vraiment très, circonscrit à la compétition, c'était pas quelque chose de général. Quand on avait des prothèses dans la société antique, la personne continuait d'être estropiée ou d'être rejetée de la société. Même si c'était des gens qui étaient nés valides, entiers, avec l'idée d'une perfection, entre guillemets, s'ils étaient blessés à la guerre et qu'ils devaient porter une prothèse ensuite, même si c'était des vétérans de guerre très aimés, ils restaient un peu en marge. Par exemple, ils n'étaient pas forcément invités au sacrifice ou à toutes les cérémonies officielles. Il y avait vraiment l'idée que le corps devait être parfait naturellement. Et c'est quelque chose qu'on voit notamment dans les représentations, les vases qui illustrent en fait les Jeux Olympiques antiques. Les athlètes sont nus en fait et leurs corps sont extrêmement huilés. Ça, c'est les textes qui nous le disent parce qu'on ne le voit pas sur les vases. Mais il y a l'idée vraiment de sublimer le corps. Corps qui doit être toujours parfait, beau à admirer. Et c'est vraiment... l'athlète ne doit pas se modifier, en fait. Il doit s'entraîner, mais il doit...
se présenter tel qu'il est.
Oui, il ne doit pas refaire des dons qu'il a déjà, en fait.
Il y a aussi peut-être une idée que l'immortalité revient à la divinité. Enfin, il y a un rapport au Dieu qui est...
Oui, c'est... En fait, il y a vraiment deux mondes séparés. Même si l'idée de perfection du corps les rapproche des dieux, il y a vraiment des... Sur Terre, en tout cas... Le corps doit être parfait naturellement. On ne doit pas forcément chercher à le modifier.
Alors, ayant pris note de ce constat initial, peut-être, si on revient au sujet actuel et aux conséquences que porte cette évolution indéniable, on s'est habitué finalement à l'idée que l'humain est plastique et qu'il y avait une frontière comme ça qui tendait à se réduire aujourd'hui. Quelles conséquences ça a, finalement, cette quête de la performance, de la perfection, par rapport à la conception du sport ? Donc là, je me réadresse à vous, Yannick Rumpala, parce que dans cette quête de la performance, le nouveau réflexe qui pousse à l'augmentation du corps, est-ce que ça n'a pas aussi pour effet de déplacer l'objet de la compétition, c'est-à-dire d'installer un esprit de compétition, déjà entre personnes valides et non valide, c'est le sujet dont on parlait précédemment. C'est pas un décalage ici.
Oui, tout à fait, parce qu'à partir du moment où effectivement les personnes qui étaient auparavant handicapées, mais équipées ou augmentées, atteignent des niveaux de performance supérieurs à celles des personnes valides, ça peut poser certaines questions et susciter certaines envies d'augmentation. Et à tel point qu'on trouve des franges extrêmes de certains milieux, des hypothèses d'automutilation pour ensuite avoir des justifications de remplacement par des prothèses pour atteindre des niveaux effectivement supérieurs à ce qu'étaient les niveaux antérieurs. Ce sont des franges tout à fait extrêmes. Mais là aussi où c'est intéressant, parce que c'est congruent avec une espèce d'atmosphère idéologique et de valeur, c'est que, là aussi je mets beaucoup de guillemets, de l'époque néolibérale qui est la nôtre, mais tout le monde sent bien qu'on est dans une espèce d'ambiance de compétition généralisée, et pour le coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le sport devient une espèce de laboratoire en termes de valeurs, d'un environnement axiologique et idéologique qui tente à se diffuser de manière tout à fait générale. Et à tel point qu'aujourd'hui, effectivement, si on veut survivre dans certains milieux, il y a cette espèce d'obligation qui pèse sur nos esprits de s'adapter pour pouvoir effectivement performer, quoi. Je pense à des cas qui ont défrayé la chronique, comme par exemple les traders financiers, dont on sait qu'ils recourent à des substances activement pour tenir le rythme frénétique qui est le leur, ou c'est par exemple effectivement les étudiants qui, lors des concours, recourent à des suppléments médicamenteux ou autres pour effectivement performer dans ces situations de concours qui est la leur. Et on pourrait généraliser à tout un tas de domaines où effectivement la performance devient l'objectif généralisé. On n'en est pas encore tout à fait aux exosquelettes, mais après tout, il est fort probable que les salariés soient un jour peut-être pas obligés, mais contraints de s'adapter eux aussi pour avoir les performances physiques qu'on attend d'eux sur des boulots effectivement très 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 exigeants.
Et alors, dans cette atmosphère que vous décrivez, effectivement, atmosphère presque néolibérale, comme vous le dites, Marc Pelletier, cette fois, je voudrais avoir votre avis sur une crainte qui est parfois exprimée, qui serait que cette augmentation du corps n'ait aussi pour effet, finalement, d'amoindrir l'admiration que le public porte au sport, enfin, de faire perdre, d'une certaine façon, un peu son âme à la compétition sportive, pour déplacer la question vers une admiration qui, à ce moment-là, se tournerait presque plus sur l'ingénieur ayant mis en place la technologie. Qu'est-ce que vous en pensez de ce constat? Est-ce que c'est une crainte fondée, selon vous? Est-ce qu'on a une...
Je pense qu'on peut considérer que ce sont deux sujets différents. Alors, sur la question de l'âme du sport, déjà, il faudrait partir de l'idée que le sport en a une, d'âme. Mais effectivement, si le sport se réduit à des capacités d'ingénieur, de technologie, d'usage de certaines substances, il perdrait peut-être de son âme. Encore que certains sports sont certainement entièrement guidés par la technologie. Hein. Je ne suis pas un spécialiste de sport automobile, mais j'imagine qu'avoir le meilleur ingénieur, le meilleur moteur, ça peut aider en matière de sport automobile, et ça reste du sport. Donc il y aurait, sur d'autres sports, si je reviens vers l'athlétisme, où je serais peut-être moins mal à l'aise que dans le sport automobile, mais c'est vrai qu'en matière d'athlétisme, on a tout intérêt à ce que la performance soit propre. Et donc que l'âme du sport soit maintenue. En revanche, je ne suis pas certain que le public soit moins admiratif des performances. Alors, je vais peut-être utiliser certains exemples, mais si on parle du Tour de France, alors je ne vais pas dire que dans le cyclisme, il y aurait plus de dopage qu'ailleurs, mais il y a certaines personnes dans les médias, certains spécialistes, certains experts qui parfois mettent en doute certaines performances dans le cyclisme notamment. Le Tour de France reste une épreuve qui est très largement suivie, tant à la télévision que sur les routes elles-mêmes. Donc le public est toujours attiré par le Tour de France. Je vais avouer aussi un péché mignon, c'est que je suis un fan de football américain, de NFL, la National Football League. Pourtant, je sais très bien que cette ligue de football américain n'est pas signataire du Code mondial antidopage. Les contrôles antidopage sont faits selon des règles qui sont choisies par les employeurs et les salariés, donc c'est négocié. Et se faire attraper sur un contrôle antidopage quand on est un joueur de ligue de football américain, c'est qu'on n'est vraiment pas très très doué. Donc il y a aussi un doute quand on regarde ces matchs sur l'usage de substances par les sportifs, et pourtant on regarde, hein, le Super Bowl, c'est l'événement qui est le plus regardé dans le monde. Et puis peut-être un dernier point, on en parle un petit peu depuis quelques mois, vous avez des personnes assez riches qui ont pour projet de créer ce qu'ils appellent des Enhanced Games, donc des jeux améliorés en quelque sorte, où l'idée, ce serait de permettre à tous les sportifs qui y participent d'utiliser la meilleure technologie, les meilleures substances. Il n'y aurait pas de contrôle antidopage. Il y aurait presque même un encouragement à utiliser la technologie et des substances qui augmentent artificiellement les performances. Et dans ce cadre de compétition, il y a des sommes assez importantes. Hein. On parle de prime d'un million de dollars pour la personne qui battrait, par exemple, le record du monde du 100 mètres, qui battrait donc le record du Usain Bolt. Alors, ce ne serait pas un record du monde, puisque du coup, la personne utiliserait toute une série de choses qui seraient interdites sur une piste d'athlétisme normale. Mais ça prouve qu'il y a de l'argent, ça prouve qu'il y a de l'intérêt. Et je pense que les gens regarderaient hein, ces Enhanced Games. Ce serait probablement quelque chose qui porterait atteinte à cette fameuse âme du sport que vous évoqueriez. Mais je ne suis pas certain que, et je le regrette, mais je ne suis pas certain que le public admire moins les sportifs pour autant.
C'est certain que ça trouverait un public comme plusieurs évolutions dont on parle dans différentes occasions dans cette émission. Et effectivement, ce type de projet trouve un public, c'est incontestable. Yannick Rumpala, est-ce que là, dans l'exemple que vous venez de prendre, et effectivement, on est sur finalement le dernier temps de cette émission vers ce que nous promet l'avenir là-dessus, est-ce qu'on est, dans cet exemple que Marc Pelletier a pris, dans une notion qui serait véritablement du transhumanisme ou pas ? Est-ce que là, on atteint cette progression ou pas, selon
vous ? C'est compliqué, mais oui, en un sens où, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, où il y a la diffusion d'un certain nombre d'idées et de tout un imaginaire. C'est là où on fait le lien aussi avec la question du sport. Enfin, moi, je serais peut-être même plus provocateur que Marc en disant que, si tant est qu'il y a une âme du sport, elle a changé, hein, puisque l'important n'est plus de participer, comme disait Coubertin. L'important aujourd'hui, c'est de gagner et presque tous les moyens sont devenus bons. Un autre aspect sur lequel on n'a peut-être pas trop insisté, mais par la bande, c'est le rôle croissant de la technoscience dans tout ça. Moi, je suis frappé des statistiques. Aujourd'hui, regarder des matchs à la télévision, c'est une collection de statistiques qui aligne les performances. Et les entraînements des sportifs aujourd'hui, j'en suis parfois me demander, mais quelle est la part de plaisir qui leur reste, à partir du moment où tout est mesuré, où les gestes sont calibrés, où il y a, et le tout étant de plus en plus financé par des États, puisque la compétition, c'est pas simplement entre des sportifs, comme on le remarque aussi avec le comptage du nombre de médailles, c'est une compétition aussi entre des États, dont on sait que certains d'entre eux, à commencer notamment par la Chine, sont parfois prêts à aller très loin dans la pression qu'ils mettent à la fois sur les sportifs et les techniques auxquelles ils ont recours. Donc il y a à la fois un aspect technoscientifique. Il y a un aspect effectivement, je dirais, public, au sens étatique. L'aspect aussi auquel on pourrait penser en l'ajoutant, c'est l'aspect économique. C'est aussi le marché que tout cela représente. Il faut bien voir aussi qu'à partir du moment où il y a concurrence, compétition, à partir du moment où il y a une espèce d'obligation pour chaque individu d'être au niveau le plus performant possible, il peut effectivement se développer des marchés pour satisfaire ce besoin et cette demande. Fréquenter une pharmacie aujourd'hui, c'est rencontrer toute une variété de compléments alimentaires, de produits divers et variés qui sont capables effectivement d'augmenter les performances. Et on peut faire l'hypothèse, qui est à mon avis plus qu'une hypothèse, que les prothèses, les différentes formes de effectivement d'ajouts, que ce soit corporel ou autre, deviendront effectivement des marchés à l'avenir très 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 prometteurs. Et en un certain sens, alors on n'est plus tout à fait dans le domaine du sport, mais c'est l'hypothèse que fait Elon Musk à certains égards avec sa puce et Neuralink, c'est, oui je la résume, c'est pour dire les choses très vite, c'est que l'humanité risquant d'être dépassée par l'intelligence artificielle, la seule solution qui nous resterait, c'est effectivement de nous améliorer avec ce type d'objet technologique pour être capable de résister au niveau de performance qu'atteindraient potentiellement les intelligences artificielles. Et après tout, on peut imaginer que l'humanité risquant d'être dépassée par des robots ou des entités techniques très développées, pourquoi effectivement ne pas... Alors, il y a les versions positives, qui sont les exosquelettes pour les personnes âgées, mais on peut imaginer d'autres prothèses pour effectivement résister à cette espèce de concurrence généralisée. Voilà ce qu'on trouve dans Cyberpunk.
Effectivement, ça, c'est la tendance Cyberpunk, le courant que vous, sur lequel vous travaillez, que vous évoquez, c'est la question de fond qui est posée et que vous résumez bien avec cette actualité. Finalement, au nom de quoi est-ce qu'il faudrait s'interdire de faire ce qu'on est techniquement finalement capable de faire ? Alors, peut-être en mot de conclusion, Claire, avec moi, si on fait preuve d'une dose d'anachronisme, on a commencé par des mots d'histoire, on peut finir par là. Vous y avez un peu répondu tout à l'heure, mais à cette question-là, à la question finalement de l'avenir, qu'en auraient pensé les dieux dans les premiers Jeux à Olympie ? On aurait tranché ça comment ?
à l'idée de d'utiliser, de faire feu de tout bois un peu. Je pense qu'on a un peu la réponse en fait dans l'origine mythologique des Jeux Olympiques justement. Alors pour résumer, les Jeux Olympiques sont censés être des jeux funéraires donnés en l'honneur du roi Œnomaos qui est mort en fait suite à une course de chars. Et cette course de chars a eu lieu parce que un grec, Pélops, voulait épouser la fille d'Œnomaos. Et Œnomaos avait dit « D'accord, très bien, si vous me battez en course de chars. » Donc il disait ça à tous les prétendants. Sauf que le char du roi était un don de son père, le dieu Arès, donc un char surpuissant, qui ne pouvait pas être battu par un char humain. Ce qui fait que pour gagner et pour avoir la main de la fille, Pélops a saboté en fait le char. Il a remplacé certaines parties par de la cire qui, au soleil, ont fondu, le roi est mort, et les Jeux Olympiques ont été créés en son honneur, les Jeux funéraires de Œnomaos. On peut penser qu'en donnant, en faisant des dons de chars ou d'autres dons dans la mythologie grecque, les dieux en fait sont là pour donner des atouts. Mais justement, les humains, en créant les jeux et la compétition sportive, ont essayé de mettre, d'encadrer ça et de vraiment se donner vers la performance. Il y a souvent dans les mentions, les décrets de triche où on exclut quelqu'un, on explique pourquoi il est exclu, et généralement c'est les pots de vin, mais on dit cela doit être gagné par l'effort et le travail, non pas par l'argent. Ce qui veut bien dire, en fait, c'est l'idée de la performance et de se dépasser qui est recherchée, et pas, mais se dépasser par son esprit ou sa volonté, et pas en cherchant la performance technique.
Merci pour cet éclairage. Merci beaucoup également à distance pour vos propos, Marc Pelletier. J'espère qu'on aura l'occasion de vous entendre pour une troisième émission sur ces questions. Merci pour votre intervention encore passionnante aujourd'hui. D'entendre la bande originale du film Les Chariots de Feu, choix symbolique pour le dernier temps de cette émission, car il est question dans ce film du dépassement de soi et de deux athlètes britanniques. Pour terminer cet échange, je vous propose de réagir à une lecture de Nietzsche, issue du célèbre recueil Ainsi parlait Zarathoustra.
« Je vous enseigne le surhomme, dit Zarathoustra au peuple assemblé. L'homme est quelque chose qui doit être dépassé. Qu'avez-vous fait pour le dépasser ? Tous les êtres ont jusqu'ici créé quelque chose de plus haut qu'eux-mêmes, et vous voudriez être le reflux de cette immense marée, et plutôt revenir à la bête que dépasser l'homme. Qu'est-ce que le singe pour l'homme ? Un objet de risée, ou de honte et de douleur. Et c'est là aussi ce que l'homme doit être pour le surhomme, un objet de risée, et de honte et de douleur. Voyez, je vous enseigne le surhomme. le surhomme est la raison d'être de la Terre. Votre volonté dira que le surhomme soit la raison d'être de la Terre.
Alors, est-ce que cet extrait vous impose une réaction? Est-ce que vous voulez réagir peut-être à distance, Marc Pelletier?
Brièvement, oui. Alors, je suis pas un spécialiste de Nietzsche, mais je pense que cette lecture, elle me donne un petit peu d'espoir. Tout à l'heure, vous parliez de l'âme du sport et finalement l'Ubermensch, le surhumain selon Nietzsche, je l'interprète pas comme étant un surhumain qui utiliserait la technologie pour augmenter ses performances sportives, mais je l'interprète, et alors peut-être mal, mais je l'interprète plutôt comme quelqu'un qui s'élève, dont les valeurs sont améliorées. Donc c'est plutôt pour moi une lecture d'espoir que les valeurs du sport soient enfin définies et utilisées et qu'elles donnent un sens finalement aux performances des sportifs dont on a parlé aujourd'hui.
Merci beaucoup, merci encore à vous trois. Merci à vous qui nous écoutez d'avoir suivi cette nouvelle émission des Temps électriques. J'y ai reçu aujourd'hui Claire Laborde-Mingeot, doctorante au Centre d'Histoire et d'Anthropologie du Droit de l'Université Paris-Nanterre. Également Marc Pelletier, maître de conférence en droit privé à l'Université Côte d'Azur, et Yannick Rompala, maître de conférence HDR en sciences politiques, également à l'Université Côte d'Azur. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet d'Amicus Radio, rubrique Les Temps électriques. Une émission préparée et enregistrée avec l'aide de Marin Hirsinger. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission sur le site d'Amicus Radio. À très bientôt.